hablo de un primario Casero Oriental. Je réduis totalement ce qui
se passe. Moi, j'ai essayé de le combattre au Castangage, en combinant les deux, de m'expliquer, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bon début de semaine en compagnie de Radio Capi qui vous propose parole aux auditeurs. La conférence épiscopale nationale du Congo a bouclé samedi au centre interdiocésain de Kinshasa le premier round de consultations avec toutes les forces politiques et sociales de la RDC. Ces consultations s'inscrivent dans la droite ligne de la déclaration des évêques de la RDC du mois de juin dernier d'offrir leur sollicitude pastorale aux facilitateurs pour la tenue effective du dialogue politique. Certains observateurs estiment que l'Église catholique et les autres confessions religieuses devraient faire partie de la facilitation afin de rassurer toutes les parties engagées dans le processus du dialogue. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-7315 pour une intervention en direct dans ces magazines. Mise en onde par Mimi Kindou, Nico Kalamba, Yeto Standard et Piro et la Mégie a le réel plaisir de vous présenter ce magazine réalisé par Nico Kalamba et sous la supervision de Julien Nyamouini. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Écho d'économie sur Radio Capi, la vie économique du Congo à une vitrine. Écho d'économie, 18h15 de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, un reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
L'UNESCO disait il y a quelques années, la paix dans le monde ne se fera pas sans les religions. Les religions ont un rôle spécifique et irremplaçable qui ne laisse pas réduire à être un appoint politique, un vivre ensemble. Alors, la conférence, je le disais tout à l'heure, épiscopale nationale du Congo, a bouclé au centre diocésain de Kinshasa le premier round de consultation avec toutes les forces politiques et sociales du pays. L'objectif, c'est de voir comment décanter la situation par rapport au blocage observé dans le processus du dialogue politique en RDC. Plusieurs observateurs estiment qu'au-delà de l'Église catholique, l'ensemble des confessions religieuses devraient faire partie de la facilitation afin de rassurer toutes les parties engagées dans le processus du dialogue. Comment on peut y arriver? Quels sont les préalables pour qu'on arrive effectivement à l'effectivité, si on peut dire ainsi, du dialogue en impliquant bien sûr les confessions religieuses? C'est la question au centre de notre échange. Beaucoup de commentaires sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs dans cette discussion qui est très animé depuis que l'émission le sujet a été publié. John Kamangou de Kinshasa, il dit ceci: toute démarche tendant à débloquer une situation confuse ne peut qu'être encouragée, quels que soient les auteurs, pourvu que l'objectif soit atteint. Mais les différentes positions des uns et des autres ne semblent pas faciliter cette démarche, d'autant plus que chaque camp n'est pas, à mon avis, prêt à faire des concessions s'agissant des exigences adverses. Et John, vous êtes avec nous ici à Kinshasa, en direct sur les antennes de Radio Capi. Bonjour et bienvenue.
Oui, alors bonjour.
Alors, vous avez dit, quand même, toute démarche peut être encouragée. Mais si aujourd'hui, les confessions religieuses dans leur ensemble pouvaient être intégrées dans la facilitation, pensez-vous que ça peut faire évoluer, faire bouger les lignes pour donner la confiance aux uns aux autres qui sont concernés par ce dialogue politique?
Oui, certainement, cela ne peut qu'être encouragé, mais il faut aussi tenir compte du timing, parce que au moment où nous parlons, le temps presse. Alors, s'il faudrait réunir toutes les confessions religieuses, cela prendra encore une fois de plus du temps. Et je pense que quand l'Église catholique avait pris cette initiative-là, les autres, si elles étaient intéressées, je pense qu'elles devraient s'associer. Mais si l'Église catholique a pris cette décision-là seule, je pense que les autres n'étaient pas prêts pour l'accompagner. Mais pour l'instant, la démarche de l'Église catholique ne peut être encouragée et il faudrait aussi tenir compte de certains préalables posés par certains groupes qui vont participer au dialogue, entre autres l'opposition, la majorité et ainsi que la société civile. Mais il faudrait aussi dire une chose. Les partis politiques qui posent certains préalables doivent aussi tenir compte de l'intérêt populaire. Parce que, en ce moment où nous parlons, la population est en train de souffrir et le temps file. Alors, s'il faudrait s'attarder à cela, je pense que cela ne profitera pas à, à la population.
Mais quand on regarde parmi les préalables, parce que vous en avez évoqué, si nous prenons le préalable majeur qui a été posé par le rassemblement qui se retrouve derrière le président du comité des sages et saintes Tshisekedi, la récusation du facilitateur désigné par l'Union africaine Edem Kodjo. Alors, pensez-vous que à côté du facilitateur qui a été récusé, s'il y a aussi une action des confessions religieuses qui peuvent, si on peut dire, s'y entrer dans la confacilitation, est-ce que ça peut quand même assurer certains compatriotes qui ne voudraient pas s'impliquer dans ces dialogues, alors, vu aussi la nécessité de pouvoir enfin tenir ces dialogues?
Oui, certainement, cela peut se comprendre, mais le rassemblement doit comprendre une chose. Une fois au dialogue, le facilitateur ne sera pas pour dicter les décisions. Donc, les décisions seront débattues entre les parties prenantes. Et à la fin, s'il y a un consensus qui est trouvé, et le facilitateur va le publier. Donc, s'il faudrait s'attarder à ça, moi je pense que le rassemblement est en train de jouer au jeu de la majorité que nous sommes en train de décrire tous. Donc, en posant cela comme préalable, attendre le temps, attendre que le facilitateur soit changé à une autre personne, et tout cela, ça va prendre du temps. Donc, le rassemblement doit comprendre que le facilitateur est là que pour jouer le relais, donc prendre les idées de gauche, les associer à celles de droite, trouver un compromis et le publier. Donc il ne doit pas s'attarder à ce préalable-là.
Merci beaucoup John, vous estimez que les temps pressent, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, il ne serait pas mieux que le rassemblement s'attarde sur la récusation du facilitateur, quand bien même les confessions religieuses pourraient avoir un rôle à jouer dans la facilitation. Merci beaucoup John. Kili Kumbi, vous nous appelez des Kindu, vous avez dit tout à l'heure sur la page Facebook que la démarche de la CNCO est salutaire car il faut mettre d'urgence un frein à l'immobilisme. Alors comment y arriver, comment impliquer les confessions religieuses? Est-ce qu'il y a de la chance que si les confessions religieuses sont impliquées dans les travaux de facilitation, on peut arriver enfin à tenir ces dialogues? Kili Kumbi, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, merci pour la parole. Oui, comme je l'ai dit sur la page Facebook, la démarche de la CNCO est sanitaire et toute autre démarche qui peut venir de n'importe où, que ce soit de n'importe quelle autre confession religieuse, serait aussi facilitaire. Serait aussi sanitaire, voulais-je dire. Mais par rapport à la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui, qu'est-ce que je peux dire à ce sujet? Je suppose que, en tout cas, la situation dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui était pour moi prévisible. Et cela, c'est pour des raisons. Quelles sont deux raisons? La première raison est que l'histoire, s'il faut nous revenir à l'histoire, l'histoire nous renseigne qu'en matière de dialogue dans notre pays, bon nombre de personnes désignées par la communauté internationale pour faciliter la sortie des différentes crises, la sortie des différentes crises dans laquelle le pays a s'est retrouvé, ont toujours eu du pain sur la planche. Et là, que ce soit d'Abdoulaye Wade en 1991, en passant par Moustapha Niasse, Lagdar Brahimi, Alpha Omar Konaré, Nelson Mandela, Ketumir Massir et qu'est-ce encore, en tout cas la tâche légale toujours été ardue. Alors, toutes ces personnes citées constituent elles-mêmes des références en matière de démocratie en Afrique. Et alors, si nous parlons de Edem Kodjo, parce que c'est lui qui constitue aujourd'hui les problèmes, ça je le pense, et si nous parlons de lui, et c'est la deuxième raison, moi je trouve que pas seulement son pays, mais lui-même, les facilitateurs n'est pas un bon exemple en matière de démocratie. À ce sujet, précisément, je me demande cependant si l'Union africaine qui l'a désigné n'a pas tenu compte de tous ces paramètres pour désigner Kodjo comme facilitateur du dialogue, dialogue tant attendu. Et c'est là où je dis que cette situation a été préparée. Préparée parce qu'on savait que ça ne passera pas, et avec ça, je suppose que ceci est profitable. Soit à cette même Union africaine qui l'a désigné, ou à la communauté internationale à l'ensemble. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut voir l'indifférence d'une grande partie de la communauté internationale face à cette crise qui pointe à l'horizon. S'il faut remonter un peu plus loin, quand on a convoqué ces dialogues à partir de 2015, quand le chef de l'État a commencé les facilitations, au terme de ces facilitations, sauf erreur de ma part, vous savez qu'il y a eu une liste de moins de 4 personnalités que le chef de l'État a soumise aux Nations Unies, là où on trouvait les noms du président angolais José Eduardo dos Santos, on trouvait les noms de plusieurs autres personnalités, pour faciliter ce dialogue, et cette personnalité n'est pas de moindre. Même vous avez.
Mais à ce niveau-là, Koumbi, s'il vous plaît, à ce niveau-là, je me rappelle dans plusieurs débats que nous avons eus du côté de la majorité présidentielle, on disait oui, oh, le chef de l'État a écrit, les autres disaient même aurait écrit, mais sans pour autant préciser qu'il y ait des noms qui ont été avancés. Hein. Plusieurs ont dit non, mais on a écrit, mais on n'a pas avancé des noms. Mais alors, mais parce qu'il y a cette méfiance, cette réfutation de Mkodjo, les facilitateurs désignés par l'Union africaine, pensez-vous que les confessions religieuses dans notre pays, ou même en dehors du pays, peuvent jouer un rôle important pour amener les uns et les autres autour de la table et éviter effectivement qu'on puisse se retrouver dans cette crise majeure qui est redoutée par plusieurs personnes?
Oui, ils peuvent trouver une solution, ils peuvent réussir à faire revenir les autres à la raison, toutes les autres parties. Mais laissez-moi dire que aujourd'hui, s'il faut parler de Mkodjo, je voulais dire encore que c'est lui qui pose les problèmes. Et la meilleure démarche, selon moi, serait, pour la CENCO précisément, serait de chercher à avoir le départ de Mkodjo. Parce que je vous ai dit que c'est comme si cette situation est profitable à ceux qui ont désigné Mkodjo. Parce que il faut voir lui-même s'il faut suivre les différentes sorties médiatiques de Mkodjo. Quand il dit que je n'ai pas l'intention de démissionner, là, il faut vous demander, pendant que les choses ne marchent pas bien, pendant que ça ne passe pas avec lui, et il vous dit que non, je n'ai pas l'intention de démissionner. Ça veut dire que cette situation est soit profitable à ceux qui l'ont désigné, et là, je parle précisément de l'Union africaine, mm-hmm. on a compris que ça n'est pas
et là-bas. Et vous auriez aimé que dans la démarche, vous auriez aimé, oui, vous auriez aimé que dans la démarche de la CENCO, qu'elle puisse plutôt se mettre du camp de ceux qui croient qu'il faut changer des facilitateurs plutôt que travailler avec le facilitateur qui est refusé par un camp.
Pas seulement se mettre du camp de ceux qui ont refusé Mkodjo, mais si je dis que la CENCO devait chercher à obtenir le départ de Mkodjo, c'est pourquoi. Parce qu'on n'ira pas au dialogue avec un facilitateur qui n'a plus la confiance d'une grande partie.
Voilà, merci beaucoup Kili Koumbi, on a eu assez suffisamment de temps parce que je vois comment beaucoup de gens se bousculent au niveau de notre standard autour de cette question. Vous estimez que la CENCO aurait sollicité, là il fallait s'adresser à l'Union africaine parce qu'il sera difficile aujourd'hui qu'on puisse tenir les dialogues avec en facilitation qui est requisée par un camp. Dans ces conditions ça devient difficile et vous pensez que la situation était déjà prévisible, hein, comme si c'était prévu qu'on se retrouve à ce niveau de blocage. Maître Laurent, vous êtes ici. Est-ce que vous avez cette lecture qu'on peut avoir le facilitateur, qu'il soit un autre qui peut venir, mais quand même au niveau interne, les confessions religieuses ont un rôle important à jouer dans ces travaux de facilitation?
Évidemment, monsieur le journaliste, il faut remonter d'abord un peu plus avant pour dire que si la crise politique que nous vivons aujourd'hui est créée, c'est justement parce que la majorité au pouvoir n'a pas su organiser les élections ou ne donne pas les signaux que ces dernières seront organisées dans les délais prévus par la Constitution. Ça, c'est le fil dorsal de la problématique. Mm-hmm. Maintenant que la paternité du fiasco revient à la majorité, c'est à elle qu'il devrait d'ailleurs jouer le rôle le plus important pour faciliter la tenue de ce dialogue, parce que le véritable bénéficiaire du dialogue, c'est justement la majorité présidentielle. Et que donc, aussitôt où une grande partie de l'opposition, je peux dire même la partie la plus importante de l'opposition, trouve que Mkodjo devient tout un problème, n'a plus de crédibilité. Je crois que même par rapport à l'honneur personnel de Mkodjo, il devrait même se déporter lorsque les suspicions ont commencé. Mais quant à l'entrée en danse, parce que vous me posez la question de savoir, comparativement à mon point de vue, que l'Église catholique joue un rôle extrêmement important, effectivement, parce que j'ai le droit et même l'obligation d'être inquiet. Et lorsque l'Église catholique, qui est un partenaire important, que ce soit du gouvernement, que ce soit de la population congolaise, entre dans la danse, tout le monde devrait applaudir, mais j'aurais effectivement souhaité que les bons offices de l'Église catholique aillent dans le sens de convaincre la majorité de se déculoter, d'abdiquer définitivement la facilitation de Mkodjo et qui recherche un autre facilitateur qui pourra au moins avoir l'appui de toutes les parties prenantes, parce qu'il y a un principe général de droit qui est connu à toutes les parties de n'avoir pas confiance à un juge. Et nous considérons qu'Odio, à tort ou à raison, comme un juge, parce qu'il va faciliter des échanges entre les deux parties. Et que lorsqu'une partie estime ne plus avoir confiance au prestataire, je ne comprends pas pourquoi Odio s'y accroche. Et d'ailleurs, cela risque même d'augmenter la suspicion à son encontre.
Mais alors là, vous auriez aimé que les confessions religieuses, la SENCO qui a initié ces consultations, s'adresse aussi quand même à l'Union africaine qui a désigné le facilitateur Eben Kodjo.
Tout naturellement, parce que l'Église catholique vit dans notre pays, parce que les évêques, nos pères évêques, avant d'être évêques, ils sont d'abord congolais, ils vivent les réalités. Toutes les craintes que nous, la population, nous estimons, et également, vont souffrir des affres si jamais il y a un conflit qui déborde dans les pays. Et que donc, ils ont un double rôle. Non seulement le leadership qu'ils jouent au sein de l'Église, majoritaire dans notre pays, mais ils sont également congolais comme tout autre fils du pays. Et si aujourd'hui, nous décrions le fait que les Congolais font confiance seulement aux étrangers et que l'Église catholique qui veut mettre le de l'eau dans les vrais de tout le monde devrait, à principe, en ce jour, après avoir consulté toutes les parties, saisir l'Église africaine pour dire que nous vivons dans le pays, nous nous trouvons devant un impasse important et que donc il va falloir que l'on désigne un autre facilitateur qui a un peu plus de crédibilité, qui peut rassurer aujourd'hui l'opinion nationale à telle enceinte qu'il va mener la facilitation jusqu'au bout dans la quiétude de la prise absolue. Et d'ailleurs, je demande à côté de celui cette émission de pouvoir tirer la révérence pour qu'il garde son honneur en Afrique. C'est-à-dire que pas parce qu'on m'a récusé, mais je me déporte moi-même étant entendu qu'il y a une partie importante qui va participer aux échanges, n'a plus confiance en ma personne. Et ça ne serait que justice.
Merci beaucoup, Maître Laurent. Il y a d'abord la responsabilité du facilitateur, vous estimez, en termes d'honneur, mais aussi des facilités de travail, parce que là, on voit que le fossé ça s'agrandit encore entre ceux qui soutiennent le facilitateur. Rappelons quand même qu'il y a non seulement la majorité présidentielle, mais c'est aussi une partie de la communauté internationale, les ambassadeurs. Ils estiment qu'il faut renouveler la confiance aux facilitateurs, mais d'un côté, avec une grande partie de ceux qui doivent participer au dialogue qui récuse le facilitateur. Et vous aurez aimé qu'au niveau de l'Église de la SENCO, la démarche soit aussi menée auprès de l'Union africaine qui a désigné le facilitateur pour dire, voilà, à ces niveaux, quand le facilitateur est récusé par une partie, ça sera difficile aujourd'hui qu'on puisse arriver concrètement à tenir ces dialogues souhaités par tout le monde. Merci beaucoup, Maître Laurent. On reste ici à Kinshasa. Félicien, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Et alors là, on se dit quand même, quand on regarde les temps que les facilitateurs ont été désignés, en allant d'abord par l'idée même de la convocation du dialogue par le chef de l'État, d'abord la réclamation du dialogue quand on est sorti des élections de 2011, jusqu'en ce moment, on se rend compte que quelque part on est bloqué. Pensez-vous aujourd'hui que les confessions religieuses de notre pays, qu'elles soient même d'autres à l'extérieur, puissent avoir un rôle à jouer pour arriver à convaincre les uns et les autres, et surtout dans ces travails de facilitation pour que ces dialogues enfin puissent aboutir.
Exact, moi je pense que c'est possible que les confessions religieuses plutôt de notre pays ou à l'extérieur.
Félicien, pourriez-vous diminuer un peu le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît, comme ça on peut communiquer sans interférence à l'antenne. Oui, allez-y, c'est bien, on continue, oui.
Oui, je disais que c'est possible. Mais ici chez nous, il y a confession religieuse et confession religieuse. Au moins les catholiques, ils ont montré depuis très longtemps qu'ils ont toujours cherché l'intérêt du peuple, ils ont toujours cherché le bonheur du peuple. Mais si vous cherchez à ce que toutes les confessions religieuses se mettent dans la danse, vous connaissez comment ils se comportent. Et c'est toujours des intérêts personnels, la corruption et tout ça. Mais je pense que les catholiques sont capables, surtout de convaincre de l'opposition radicale dans les rassemblements, parce que au moins ils respectent, je veux dire, l'opposition ou la population congolaise dans son ensemble, respectent au moins les évêques, ils respectent les princes de l'Église catholique surtout. Ils peuvent les ramener au bon sentiment pour qu'on puisse un peu minimiser le comportement du facilitateur et trouver des solutions qui puissent aider à résoudre les problèmes de la crise.
Mais il faut le féliciter. je me rappelle, la semaine passée, vous aviez évoqué l'idée de pouvoir tenir compte aussi du point de vue des centristes dans la conception de la facilitation. C'est cette démarche. Est-ce que pensez-vous qu'on peut aujourd'hui, dans notre configuration politique, avoir un courant qui puisse rassembler les uns et les autres, auxquels on peut faire confiance pour jouer un rôle dans les préparatifs de ces discussions?
Oui, exactement. Aujourd'hui, je pense que on devait comprendre que chaque fois qu'on parle de l'opposition et de la majorité, puis on ajoute la société civile, qui directement jamais été à politique, ce sont des erreurs qu'on commet. Et normalement, on devait parler des centristes, parce que les centristes au moins ont démontré qu'ils ne se battent pas pour leur ventre, pour avoir le pouvoir pour le pouvoir, mais ils soutiennent des actions qui sont bonnes pour la bonne marche de la République, et qu'elles viennent de la majorité ou qu'elles viennent de l'opposition. Ce sont les vraies politiques qu'on devrait utiliser pour l'intérêt supérieur de la nation. Or, aujourd'hui, les centristes se sont organisés dans une plateforme qu'on appelle FC, c'est-à-dire Force Centriste Indépendante de la République. Et ils font un contrepoids. C'était une grande plateforme de plus de moins 41 partis politiques. Et il y en a d'autres qui vont s'ajouter, bien sûr. Donc, on doit commencer à penser à ça, pour qu'il n'y ait pas des blocs qui se battent tout le temps et qui perdent du temps à la République, Pierrot.
Mais est-ce que au niveau de centristes, y a-t-il des démarches, par exemple, aujourd'hui, que ce soit du côté de l'opposition, de la majorité, et même du côté de la facilitation, pour dire, voilà, nous mettons nos services à votre disposition, ou bien au niveau du facilitateur, pour dire, voilà, on peut quand même faire confiance à ceux-là qui ne partagent pas l'extrémisme des deux camps?
Exactement, les FC, Force Centriste Indépendante de la République, ont déposé leur cahier de charges le vendredi à la CENCO. Donc ils sont là, ils sont déjà en mouvement, ils sont en train de travailler. Et d'autres centristes qui sont encore restés en réserve sont en train de s'ajouter aux FC pour que les centristes prennent la relève. Parce que souvent on pense que c'est la société civile qui devrait jouer le pont entre l'opposition et la majorité, alors que la vraie société civile, la politique, n'existe pas dans notre pays. C'est pourquoi les centristes devraient prendre la relève et vraiment montrer qu'ils sont centristes pour aider la République à aller de l'avant.
Merci beaucoup, Félicien. Vous estimez que au-delà de tous ces clivages d'extrémisme, que ce soit dans deux camps, l'Église catholique a un rôle très très important à jouer. Il a déjà fait de preuves, mais s'il y a moyen de pouvoir aussi tenir compte des forces que vous avez dit, les centristes, ça veut dire qu'ils sont mis du côté de l'opposition de la majorité, qui peuvent être intégrés. Vous pensez qu'à ce niveau, on peut arriver à faire évoluer les débats autour de cette question. Merci beaucoup, Félicien. Nous allons à Cambové avec Gabriel Mwamba. Gabriel, bonjour et bienvenue dans ce débat.
Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis content d'être avec vous encore aujourd'hui.
Et nous aussi, ça nous fait plaisir que vous puissiez intervenir des Cambovais. Alors, pensez-vous aujourd'hui que les confessions religieuses peuvent, au-delà de tout extrémisme des uns et des autres, arriver à ramener les gens autour de la table, autour de la facilitation aujourd'hui?
Oui, monsieur le journaliste, nous devons éclairer notre peuple correctement. Parce que quand vous faites votre émission, la finesse est d'éclairer d'abord la population correctement. Le dialogue, le but du dialogue, c'est que les gens se mettent ensemble et arrivent à un accord. Or, cet accord pose problème aujourd'hui parce que, des deux côtés, on pense que le médiateur qui est là, Eden Kodjo, serait, d'après le rassemblement, serait des penchants côté gouvernement, si bien que si on va dans un tel dialogue, le schéma serait déjà tracé, on risque d'avoir un accord biaisé, un accord inacceptable. C'est là où je vous encourage. La présence de la CENCO, même si elle est tardive, est d'être encouragée aujourd'hui. Mm-hmm. Vous voyez, Eden Kodjo est là depuis longtemps. Il patauge. Le Congo n'est pas n'importe quel pays. Il faudrait suffisamment qu'il soit encadré des personnes qui assurent l'autre cas. Sinon, il n'y a pas de dialogue. Un dialogue où, si elle n'a pas confiance au médiateur ou facilitateur, ce n'est pas un dialogue. Un dialogue, il faudrait que déjà le facilitateur soit accepté des deux côtés pour que, lorsqu'il commence, on arrive à un accord. Mm-hmm. Quel est le problème qui se pose aujourd'hui? c'est que l'opposition pense que la majorité ne peut pas faire des concessions. Il a déjà un schéma tracé. Et dans ce schéma-là, je ne confirme pas, c'est un point de vue que je donne, et que dans ce schéma, la CENI est déjà sa baïonnette intelligente pour réaliser ce schéma. C'est déjà un problème qui se pose. Le gouvernement trouve que l'opposition est de mauvaise foi. Elle ne veut pas comprendre la situation actuelle pour aller au-delà du délai constitutionnel. Voilà un peu les deux propositions qui se posent. Et vous pensez qu'Edem Kodjo seul peut garantir que les deux parties soient ensemble pour donner un accord qui soit mutuellement acceptable, non pas qui satisfait d'un cas par rapport à un autre? Surtout, je trouve que la présence d'Edem Kodjo seul serait insuffisante pour notre pays et une perte de temps. Vous avez le temps qu'il a déjà mis. Mm-hmm. Donc, la CENCO doit être là si c'est possible, si elle est acceptée par tout le monde, et la communauté internationale est hypocrite. Je sais que Kodjo ne peut être accepté par un camp. D'abord, son passé. Il vient d'un pays qui n'a pas, qui est un exemple de démocratie. Et vous pensez que lui, là, va accepter, sera accepté par les deux parties. Donc, encourageons que la CENCO soit là. Si elle est acceptée par les deux camps, le groupe d'abord, c'est quand même un poids dans notre pays.
Oui.
Et c'est quand même une force morale qui réunit la majorité et l'opposition, qui peut aider par sa présence à ce que les deux camps, opposition et majorité, acceptent de concéder, de lâcher quelque chose pour l'intérêt de sélections crédibles et acceptables.
Alors, Gabriel, s'il vous plaît, Gabriel, est-ce qu'on peut dire. Gabriel. Oui, allez-y.
La majorité et l'opposition cesse d'allumer le feu en dehors du dialogue parce que ça empoisonne le climat, ça ne permet pas à ceux qui doivent préparer ce cadre-là de faire avec sérénité. Voilà un peu ma contribution.
Merci beaucoup, Gabriel Mamba, de nous avoir appelé des Cambodges. Vous estimez que la CENCO peut jouer un rôle très important dans cette question. Mais alors, vous avez dénoncé l'hypocrisie de la communauté internationale, c'est ce que vous avez dit, tout en sachant qu'il y a un camp qui récuse les facilitateurs, mais la communauté internationale continue à le soutenir tout en sachant que ça risque d'être difficile. Et là, on est en train de perdre le temps. Et vous avez terminé en demandant et à la majorité, à l'opposition, de cesser d'allumer le feu en dehors du dialogue. Cela, on fait allusion aux déclarations des uns et des autres dans les médias autour de cette question. Maître Sonville, on vous garde, vous êtes à Lubumbashi, Maître Atrium à Kananga, 081 890 75. C'est pour intervenir dans ces magazines qui se penchent aujourd'hui sur la démarche de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui consulte les uns et les autres pour arriver vraiment à faire évoluer le processus de dialogue qui est bloqué depuis plusieurs mois. Et certains observateurs estiment que non seulement l'Église catholique, mais les confessions religieuses dans leur ensemble devraient faire partie de la facilitation afin de rassurer toutes les parties engagées dans le processus du dialogue. Qu'en pensez-vous? Appelez-nous au 081-890-75.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Kapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Nous allons à Lubumbashi, Maître Sonville. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, Monsieur Thiro. Bonjour à tous les millions d'auditeurs de la radio Kapi.
Alors, pour vous aujourd'hui, quel rôle peuvent jouer les confessions religieuses dans ces débats aujourd'hui, dans l'évolution du processus du dialogue qui est bloqué, quand même, qu'on se le dise depuis plusieurs mois?
Je salue d'emblée le bon office de la CENCO, puisque le bon catholique a toujours fait preuve de sa mission de maintenir la paix là où ça ne tient pas. Au-delà de ça, moi je dirais ceci, le bon catholique aussi doit tenir compte du préalable de faire notre position. D'ailleurs, M. Pierrot, si on parle du dialogue, moi j'estime que même le terme de référence devait être débattu dans ce dialogue sont déjà vidés. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à l'enrôlement, malgré les dispositions de la Constitution. Aujourd'hui, nous avons suivi le chef de l'État à l'Ouganda. Dit-on, les élections vont se tenir après l'enlèvement. Après combien d'années? Après 20 ans? Du temps que le temps qu'on mettra là, cet enlèvement-là. Au-delà de ça, monsieur Pierrot, il y a eu l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Maintenant, moi, je vous pose une question. Quel est le thème de droit qui sera débattu dans ce dialogue-là? C'est un point. Si je parle encore dans ce livre, on nous parle aussi de centristes. Il n'y a jamais existé au Congo de centristes. Nous ne pouvons pas numérer tous ces partis politiques-là en descendance. Et ces partis politiques-là sont déjà centristes. Ne puissent pas nous distraire. Nous devons aller à l'essentiel. Et M. Edame Kouzou a déjà été récusé. Pourquoi il se fout? Un véritable homme d'État, il devait pas se faire le propre sans se faire sur sa personne. Puisque une fois qu'il se fout, il est en souffrance. Il est en train de jouer le jeu, de faire le jeu du pouvoir. Et le propre sort là, il est véhiculé par le pouvoir, il est levé par le pouvoir. Tout ce qu'il fait, c'est au nom du pouvoir. Ce sont des preuves. Au-delà de ça, M. Pierrot, nous sommes en train de vivre, nos compatriotes de Béni sont en train d'être tués en support. Ce sont des preuves de être débattues dans les années.
Oui, mais maître Sandil, mais vous avez dit tout à l'heure que vous ne voyez pas l'opportunité du dialogue, mais pensez-vous encore qu'au même moment qu'on n'a pas l'opportunité du dialogue, mais qu'on puisse évoquer le massacre et les tueries de Béni qui sont très préoccupantes aussi, qui inquiètent tout le monde?
Oui, j'avais suivi sur votre chaîne. À un moment donné, les gens, les originaires de Beni, avaient demandé ce qui est un dialogue par rapport à la situation qui se passe à Beni. Ça a été rejeté comme ça. Or, moi, j'estime que si aujourd'hui nous respectons la Constitution, comme on devait convoquer les élections présidentielles le 19 septembre, si nous respectons cette Constitution, et qu'il y a un gouvernement légitime, un pouvoir légitime, je trouve que tous ces points-là seront débattus et ce pouvoir légitime va résoudre ce problème-là. Nous ne pouvons pas nous lever, M. Pierrot. Ça fait 5 ans que le chef de l'État est au pouvoir. Avec 10 ans de mandat, 5 ans de bonus. Mais il a augmenté par rapport à la sécurité de l'État de Béni.
Oui, c'est notre débat. Maître Sandil, c'est notre débat, on ne va pas mélanger les deux sujets. S'il vous plaît, le débat sur Béni, c'est un débat à part. Mais le problème de la facilitation du dialogue, c'est un débat à part. On ne fait pas les bilans du chef de l'État dans cette émission. Nous revenons sur quel rôle peuvent jouer aujourd'hui les confessions religieuses. Voilà la question centrale, on ne pourra pas mélanger.
Toi, tu as participé dans cette émission, oui. Oui, les confessions religieuses doivent se manifester comme église au milieu du village. Mm-hmm. Mais par contre, nous avons toujours été déçus par d'autres confessions, d'autres confessions, par les nôtres. Vous avez suivi la position de l'église catholique par rapport à la désignation de M. Nanga à la tête de la CENI. L'église catholique s'était retirée, puisqu'elle n'était pas d'accord. Moi, je trouve que je ne fais pas la position de l'église catholique. L'église catholique a toujours été visionnaire. Une fois qu'il y a une autre confession religieuse, j'estime que cette confession, elle peut intervenir aussi en toute impartialité. Pour amener la paix, pour approcher les deux tendances, l'opposition et le pouvoir. Moi, je ne dois pas aller mal. Les gens ne sont pas bien de lui. Ils ne sont pas ces compétences religieuses-là. Mettent en tête qu'elles sont là pour la paix, pour l'être humain. Et l'être humain doit être coincé au centre de leur préoccupation.
Merci beaucoup, Maître Sandil. Le débat sur la question de l'insécurité à l'Est pourra être tenu dans parole aux auditeurs pour qu'on ne puisse pas s'éparpiller dans notre débat. Mais vous estimez quand même qu'il y a des confessions religieuses qui n'ont pas joué le rôle de l'Église au milieu du village. Mais pour vous, il y a moyen qu'on puisse arriver, si on fait confiance aux uns et aux autres, arriver à ces débats. Mais au même moment, vous estimez aussi que le dialogue lui-même, il n'a plus aujourd'hui, il n'est plus à l'actualité parce que les questions majeures qui pouvaient être abordées dans les dialogues ont été déjà vidé, il y a déjà la révision du fichier électoral avec la possibilité de tenir les élections après la révision de ces fichiers électoraux autant de temps que ça pourra prendre. Il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui irait pour régler les questions de gestion du pouvoir après le mois de décembre. Vous estimez pour vous que le dialogue n'a pas sa raison d'être, mais au même moment, vous estimez qu'on peut le tenir parce qu'il y a d'autres questions urgentes comme la question de Béni, parce que vous avez évoqué cette question. Il y a eu aussi Vitel Kamere dans le temps qui avait pensé qu'il fallait qu'on organise un dialogue autour de la sécurité et à l'Est. Merci beaucoup, Maître Sonvil. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, au Kasaï Central. Bonjour. Maître Adrien, bonjour. Là, on a des soucis de ligne avec Adrien qui est à Kananga. On va pouvoir le recontacter au niveau de la réalisation. Nous retournons ici à Kinshasa. Docteur Richard, bonjour.
Bonjour Pierrot.
Quel rôle peuvent jouer aujourd'hui les confessions religieuses?
Nos condoléances à tous les Congolais, même pour ce deuil tardif, proclamé en mémoire de nos frères qui meurent à Béni depuis 2014.
Mais alors, par rapport à ce blocage au niveau du dialogue, pensez-vous aujourd'hui que les confessions religieuses dans leur ensemble puissent jouer un rôle dans la facilitation?
Oui, il n'y a pas de blocage. Il n'y a pas de blocage. Il y a seulement ce que nous appelons en médecine l'acharnement thérapeutique sur cadavre. Parce que les élections n'auront pas lieu, on le dit. Ceux qui ont l'armée, la police, la banque centrale, etc., disent « Si vous ne vous ralliez pas à nous, nous allons vous tuer. » Quand on dit « apaiser, apaiser » signifie quoi? Ils ont tué en 2006, ils ont tué en 2011. Ça, c'est l'acharnement thérapeutique sur cadavre. Le dialogue n'a plus de contenu. Qu'est-ce que les évêques font? Ils font ce que nous appelons la mousse de poche. Croyant faire avancer la machine, or la machine est déjà bloquée par elle-même.
Et tout à l'heure, docteur Richard,
en 2011, quand il y a eu tricherie, le président a dit ça lui-même en 2006, il y a eu tricherie, il y avait des morts. En 2011, nous, il faut l'écouter entre les lignes. Où est-ce qu'un, ils étaient après toute cette tuerie, toute cette, la fabrication des parlementaires par Mulunda? C'est même ça, je suis vu, mais c'est Nzikouya que je salue. Il avait dit les élections de Ngoï Mulunda. Son co-débatteur a dit, mais tiens, tu appelles ça aujourd'hui, élection de Ngoï Mulunda, parce qu'il vous a déjà fabriqué comme parlementaire. Donc, comme on dit en Chiluba, Bichikil et Touboy, que ça se déverse, on va ramasser ce qu'on
peut. C'est-à-dire que pour vous, docteur Richard, pour vous, vous estimez, oui, que, vous estimez qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus question du dialogue, les évêques, les églises n'ont aucun rôle à jouer aujourd'hui.
Oui,
mais dans ces conditions, cela veut dire, bon, si on peut revenir à ce qui est plus concret, c'est-à-dire que pour vous, la situation elle est presque perdue, alors on n'a rien à faire.
Mais on est en train de distraire les gens. Adedem Kodjo tient à son gâteau Congo. Il tient à son gâteau Congo, c'est tout, avec les propos qu'on a suivis.
Et dans ces conditions, ça devient difficile.
Devant son bureau.
Oui, ça devient difficile.
Pas dans une coloration aimée, voulue. Qu'est-ce que lui, il a dit? Rien.
Et dans ces conditions, docteur Richard, pour vous,
ils ont vous distribué peut-être des sandwichs, etc.
Pour vous, docteur Richard, il n'y a plus rien à espérer. La question du dialogue, les matières ont été vidées. Vous avez évoqué beaucoup de choses. Et pour vous, il n'y a plus rien à faire. Alors, nous allons écouter Madame Joséphine qui nous appelle de Boston aux États-Unis d'Amérique. Madame, vous êtes avec nous. Merci de nous avoir contacté. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Radio Capi, merci beaucoup de m'avoir passé la parole.
Mais cette question, docteur, oui, allez-y, oui.
Le président Joseph Kabila, il avait convoqué le dialogue, il a donné même une date. Je crois que c'était l'année passée. L'UDPS, à son tour, avec le président Tshisekedi, il a donné une date. Donc toutes les deux dates-là, c'est expiré, mes chers amis. C'est expiré. Vous savez, quand il y a l'expiration, au Congo, c'est pour ça qu'on consomme les histoires expirées. Ce n'est pas bien. Si tu consommes quelque chose qui est expiré, tu seras malade et puis tu vas mourir. Le dialogue, j'ai aimé un autre qui a dit que même les Nations Unies sont des hypocrites. Et Edem Kodjo, il n'est pas en mesure d'amener les deux camps sur la table. Moi, je croyais que la confession religieuse, telle que les catholiques et les autres, étaient dans la partie des sociétés civiles. Où est-ce qu'ils sortent encore? D'où ils viennent? La confession religieuse, d'où ils viennent? Ils sont dans la société civile. Dernièrement, il y a eu de rassemblement. C'était pour faire deux camps. Le camp de la majorité et le camp de rassemblement. Mais on divise les rassemblements. Maintenant, on nous appelle les confessions religieuses. Non, ils sont dans la société civile. Et puis le dialogue s'est déjà expiré. Le président lui-même, dernièrement à Ouganda, il a dit, on a tout fini. tout ce qu'on devait parler au dialogue, c'est fini. Passons maintenant aux actions. Il y a deux camps. Il y a le camp de la majorité et il y a le camp de rassemblement. Il ne faut pas diviser les gens. Chaque camp doit faire ses actions pour qu'on arrive aux élections, appeler les élections au mois de septembre et au mois de décembre, c'est fini, on passe à autre chose. Merci beaucoup, c'est ça mon apport d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Madame Joséphine. Vous avez dit que les confessions religieuses ne peuvent pas être prises à part pour jouer un autre rôle alors qu'elles sont reprises dans la société civile. Rappelons quand même que dans la composition de la CENI, on a vu les présidents de la CENI qui doit être désigné dans la société civile, être désigné par les confessions religieuses. Pour vous, dans ces conditions, il sera difficile aujourd'hui. La démarche que la CENCO mène, qu'elle soit d'autres confessions religieuses, elle ne peut pas avoir une autre influence dès lors que les confessions religieuses sont carrément reprises sur la liste de la société civile. Merci beaucoup. Nous avons plusieurs commentaires déposés dans ces débats qui est sur la page Facebook. Patient Manda, qui est à Calémie, il dit ceci, il salue l'initiative prise par la CENCO pour trouver des solutions, mais il estime que, vu aujourd'hui la prise de position des uns et des autres et l'extrémisme de deux camps, il sera difficile que les rôles joués par la CENI puissent apporter deux fruits. Je crois bien, il y a aussi Denis Choucanon. Il dit ceci, nous sommes depuis un certain moment très approchés à une impatience galopante concernant des faits et actions, des changements dans plusieurs secteurs, surtout de la politique. Les confessions religieuses paraissent comme très souvent un agneau éclaireur, mais il manque souvent d'objectivité. Et tout comme la CENCO le démontre aux yeux de tous, ils veulent agir, mais en réalité, ils agissent sans que cela ne puisse faire bouger les lignes. C'est ce qui est dit aussi Alain Panguino qui est à Issiro. Je pense que l'implication de la CENCO ainsi que d'autres confessions religieuses dans le processus dialogue est une preuve de patriotisme, mais nous voulons alors que la CENCO soit l'église au milieu du village. Parce que là, rappelons quand même que la dynamique a pu aussi n'a pas été d'accord avec la démarche de la CENCO et Simon, qui est déjà la CENCO soutenait le facilitateur qui est refusé par une partie de l'opposition. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot et la NG, bonjour à tous les amis auditeurs.
Et l'action aujourd'hui des confessions religieuses pour arriver à aider les uns et les autres dans ce travail de facilitation pour les dialogues devrait commencer par quoi, Maître Adrien?
Oui, merci beaucoup Pierrot de l'opportunité que vous m'offrez une fois de plus. Je pense que la prémisse est déjà mauvaise dans le chef de nos amis de la CENCO. Vous l'aviez épinglé tout à l'heure. Le fait déjà pour la CENCO, avant d'entamer ce qu'elle est en train de faire au jour d'aujourd'hui, le fait pour elle de donner déjà sa position pour dire, je cite, qu'elle soutenait déjà les consultateurs, M. Edem Kodjo, qui déjà était réquisé par une partie au procès, si je peux le dire ainsi. C'est là que j'ai dit la prémisse était mauvaise. La CENCO devrait déjà garder d'abord sa position, tout en sachant qu'elle devrait aussi mener des lobbying, donc des négociations auprès de toutes les deux parties, c'est-à-dire la majorité et l'opposition. Mais lorsqu'elle s'est prononcée, c'est comme si qui dirait que c'est un défi que la CENCO a lancé contre la partie qui a eu à réquiser déjà le facilitateur. C'est là que la CENCO n'aura pas la tâche facile. Là, c'est de un. De deux, vous allez prendre compte que la CENCO a mis vraiment beaucoup de temps. Au jour d'aujourd'hui, moi je me dis que c'est vrai que je ne suis pas optimiste, mais je suis pessimiste pour dire que c'est vraiment une mission qui ne réussira pas vu le temps que la CENCO a mis pour entamer un tel entretien avec le parti politique. Mais au-delà de tout ce que je venais de dire, la clé de la réussite de ce blocage se trouve soit du côté majorité, parce que au jour d'aujourd'hui, lorsque nous analysons les motifs qu'il y avait à ce que l'opposition puisse réquiser Edem Kodjo, c'est parmi le préalable posé par l'opposition et que la majorité faisait sourde oreille, c'est ce qui a fait que le facilitateur tente de passer outre ce préalable-là. C'est là qu'il a été rattrapé par l'opposition pour dire que voilà,
vous faites le jeu de la majorité parce que nous vous avions posé tel préalable, vous n'avez pas réussi, mais vous voulez tout simplement aller vite aux besoins pour convoquer le dialogue. C'est comme ça que je dis que la majorité, si aujourd'hui elle répond sans même la présence de la CENCO aux préalables qui sont connus de tous, de l'opposition, je pense que c'est la première clé de réussite. Deuxième réussite, c'est M. Edem Kodjo qui est visé au jour d'aujourd'hui. Parce que moi je me dis que son départ, sa démission, pourra aussi faciliter la tâche. Parce que si lui partait, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant prendre la CENCO au jour d'aujourd'hui et la CENCO puisse remplacer M. Edem Kodjo, parce que certaines personnes disent que non, si Edem Kodjo partait, ça sera une léthargie. Mais non, ça c'est... Donc si lui part, c'est ça la solution idéale.
Mais si Maître Adrien, vous avez aussi suivi dernièrement quand le groupe de soutien ou des facilitations, comme on l'appelle, au dialogue, a rencontré le délégué de la majorité présidentielle. Il a pu aussi dire que pour la majorité présidentielle, il n'est pas question que de réfuser Edem Kodjo, parce que Edem Kodjo a été désigné par l'Union africaine sur la demande de l'opposition. Il lui devait, en réalité, qu'il souhaitait que les dialogues soient facilités par, qu'ils soient, disons, conduits par un facilitateur désigné par la communauté internationale. Et dans ce cas, pour eux, il n'y a pas débat, on ne doit pas parler du départ de Edem Kodjo. Mais est-ce que vous estimez que dans ces conditions, on peut garder, c'est une démarche, les facilitateurs, mais qui a fait qu'ils soient accompagnés, par exemple, comme je le disais, des confessions religieuses qui peuvent redonner confiance. Est-ce que c'est possible? Parce que le deux camps dont le fossé s'élargit de plus en plus, et dans ces conditions, ça devient difficile de penser vraiment qu'on puisse avoir enfin ces dialogues.
Oui, Pierre, je pense que si la majorité parle dans ce sens-là, que pas question donc de faire partir Kodjo, donc à ce moment-là, nous allons nous dire que l'opposition donc a raison pour dire que Kodjo est en train de rouler pour ce cas-là de la majorité, parce que s'il n'y avait rien, la majorité ne devrait pas donc s'opposer pour son départ. Et aujourd'hui, même sur le plan des droits, je dis, si les juges qui sont dotés d'un pouvoir souverain, mais ces juges-là, est réquisé par une partie, à combien plus forte raison quelqu'un qui est devenu par une institution pour une cause bien déterminée. Donc la solution, moi je pense que c'est soit la majorité de répondre au préalable, soit que Kodjo puisse partir et qu'il soit remplacé par la CENCO.
Merci beaucoup, Maître Adrien. Vous estimez qu'au-delà même de pouvoir désigner un autre facilitateur international, autant mieux remplacer les facilitateurs actuels par la CENCO. Constant Ouezo de Goma, il dit que c'est une bonne initiative de la CENCO, mais de toute évidence, il serait mieux que la majorité présidentielle nous dise clairement les objectifs poursuivis pour ces dialogues. Alors, il y a Domé Lutumba de Kinshasa. Lui, il dit ceci: au-delà de tout ça, la clé de la réussite de cette question se trouve entre le main du chef de l'État. Il n'y a que lui qui peut prononcer une phrase. Personne ne pourra plus jamais parler ni du dialogue, ni de facilitateur, ni de la CENCO. Une déclaration du chef de l'État autour de toutes ces questions, de toutes ces tergiversations politiques, va résoudre la question. Jeff Kabongo, qui nous écrit des Canada, lui dit qu'il n'a plus confiance dans la démarche menée par la CENCO, parce qu'il se rappelle bien des 2011, il n'y a pas eu une position très tranchée et fixe de l'Église autour des élections de 2011. Alors, pour lui, il ne croit pas que la démarche puisse apporter des solutions via la prise de position des uns et des autres. Édouard, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour. On vous écoute, Edouard.
Oui, je voulais d'abord soulever un point. Edem Kodjo n'est pas l'unique obstacle du dialogue, sans devoir connaître. Si la CENCO arrivait à convaincre l'Union africaine qui avait mandaté Edem Kodjo à ce stade-là, nous ne devons pas ignorer qu'il y a d'autres préalables. Et ces préalables, de mon avis, causent des vrais obstacles pour la tenue du dialogue. Par exemple, celle des doublements des partis politiques. Les uns disent que ces questions doivent être traitées pendant les dialogues. Les autres disent qu'il faudrait que ces questions soient traitées en dehors du dialogue. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, nous pouvons tenter de dire et de dire qu'il y a des vrais obstacles qui ne nous permettront plus à aboutir au dialogue. Et deuxième chose, je voulais apaiser les esprits. Parce que moi, je pense que la politique, c'est un champ de rapport de force. L'article 64, les uns les mettent déjà en valeur et les autres doivent opérer ce qu'ils doivent opérer. Il n'y a plus le temps, à mon humble avis, d'organiser ces dialogues avant la fin du mandat du président de la République. Moi, je le pense ainsi.
Mais alors carrément, Edouard, on s'est dit, il y a de plus en plus dans Parole aux auditeurs, il y a beaucoup de gens qui commencent à ne plus croire dans ces dialogues, alors que dans les émissions passées, beaucoup de gens pensaient que les dialogues étaient la clé pour résoudre cette question, mais vu les prises de position des uns et des autres, les gens de plus en plus ne croient plus encore en ces dialogues. Mais vous estimez que la CENCO devait jouer ses rôles, mais après s'adresser à l'Union africaine qui a désigné les facilitateurs, mais il y a des préalables qui, si jamais ils ne sont pas résolus, c'est plus que même la réutilisation du facilitateur. Merci beaucoup, Edouard.
Nous avons deux. Laissez les journalistes.
Oui, placez un mot rapidement parce qu'il y a deux données aux auditeurs sur les antennes.
Oui, je voulais aussi vous signaler, il n'y a pas que les dialogues qui étaient les voies royales. Il y a aussi les respects stricts de la Constitution qui est, à mon humble avis, l'unique voie royale qui pouvait sauver le pays.
Et à ces conditions. Et à ces conditions, vous voyez comment on est déjà dans c'est une impossibilité, si on peut le dire, pour le respect de tous ces délais constitutionnels. Oui, rapidement, Edouard, tu dis un seul mot.
Pour ce faire, il faut maintenant que nous utilisons l'article 64 pour ceux qui chercheront à violer la Constitution.
Voilà, cet article qui est interprété par les uns et les autres, ça dépend dans quel camp on se retrouve. Merci beaucoup. David, vous êtes à Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, Pierrot.
En deux minutes, vous avez suivi les uns et les autres. Est-ce qu'on peut dire que les confessions religieuses, dans les cas où on peut observer ces blocages du dialogue, il faut qu'on se les dise, peuvent avoir un rôle important à jouer?
Bon, il y a l'Église catholique déjà qui joue un rôle, et l'Église catholique a quand même cette qualité. On doit reconnaître à cette Église la qualité d'être au milieu du village par rapport aux autres confessions religieuses, celles par exemple l'Église protestante qui, depuis les années, ne fait que rouler pour Kabila, et qui était même prête à falsifier lorsque l'autre ici, comment il s'appelle encore, Monsieur Baudon, était à la tête de l'Assemblée nationale et a falsifié des textes votés par des sénateurs dans
oui,
notre terre.
Oui, au niveau du Sénat. Et alors, vous estimez parce que, David, parce qu'il n'y a qu'une minute pour votre intervention, et vous estimez que dans ces conditions, il n'y a que l'Église catholique seule qui peut jouer ses rôles comme ils ont déjà commencé à les jouer. Mais pensez-vous qu'il y a beaucoup de chances aujourd'hui que ces rôles puissent se concilier les uns et les autres et arriver vraiment à fédérer tout le monde autour de cette cause du dialogue?
En tout cas, ils sont une porte du salut, même pour la majorité au pouvoir. Parce que l'air Kodjo, hein, ça il faut qu'on se les dise, parce que nous savons tous comment est-ce que Kodjo est arrivé dans notre pays. C'est par demande du gouvernement congolais à l'Union africaine. Et l'Union africaine dirigée par qui? Par Zuma. Zuma, c'est qui? L'ex-femme.
Au-delà de toutes les ramifications, si possible, des accusations. Mais rappelons quand même, rappelons quand même que le président de l'UDPS avait écrit aussi à son tour au secrétaire général des Nations Unies sollicitant un facilitateur, n'est-ce pas? Nommé par la communauté internationale, mais vous estimez que dans ces conditions, ça sera difficile au-delà de toutes les accusations que les uns et les autres portent sur les facilitateurs et au-delà de ces relations avec les uns et les autres, mais rappelons quand même que dans le monde politique et diplomatique, il y a toujours une personne qui est liée à l'autre, des relations qui sont liées les uns aux autres, c'est ça, et c'est comme ça que ça fonctionne des fois. On va terminer avec vous, bienvenue, vous êtes ici à Kinshasa. En une minute et demie, vous avez suivi les uns et les autres. Est-ce qu'il y a-t-il encore la chance aujourd'hui que autour de confessions religieuses, les dialogues peut-être, on peut avoir une utile sortie?
Ok, merci bien, monsieur le journaliste. Malgré le temps n'est pas notre ami, bon, je regrette, ce n'est pas parce que je dis. Bon, ça va. Moi, mon point de vue, je pense que les dialogues d'État attendu n'aura pas lieu. Et si ça dépendait de moi, on pouvait attendre d'abord. Je suis tous les intervenants de la majorité qui disent que les deux calendriers de la CENI étaient publiés et ils avaient annulé ça parce que l'opposition ne voulait pas de ces calendriers. Tantôt ils disaient le partiel, tantôt le global. Mais aujourd'hui, la même opposition ne veut pas du facilitateur et s'accroche. Ça, c'est juste une parenthèse. Mais pour le problème du dialogue, moi je pense que le dialogue en soi est vidé de son objet parce que la raison d'être de ces dialogues était organiser les élections apaisées et dans les délais constitutionnels. Maintenant, la CENI qui nous force déjà compagnie, puisqu'il n'était prévu que la CENI procède à l'enrôlement des nouveaux majeurs et la diaspora. Mais au moment où nous parlons, à Oubangui là-bas, la CENI s'organise avec la majorité en place. D'abord, les machines. On dit que les scanners se chauffent, il faut mettre des climatisations. Ils se sont bien arrangés pour tomber sur les glissements. Et la même CENI est en train d'enrôler même les enfants mineurs de ceux qui habitaient.
Voilà, ça c'est un autre débat qu'on pourra avoir peut-être avec la CENI. Et bienvenue autour de ces opérations, les difficultés rencontrées. Et là, peut-être vous pourriez attaquer la CENI et dénoncer tout ce que vous pensez autour du processus de révision du fichier électoral, mais aussi avec de preuves. Mais vous avez dit pour vous, les deux grandes questions qui devaient être abordées au dialogue, c'était l'organisation des élections apaisées dans les délais constitutionnels, dès lors que ça sera difficile de pouvoir le faire. Et vous estimez que les dialogues est déjà vidé de sa substance, comme le disaient les uns et les autres. Merci, vous avez été nombreux à commenter ce sujet et surtout les débats continuent sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Allô? 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 Il ne répond pas?
Merci à toute l'équipe de production de Paroles aux Auditeurs. Nico Kalamba était au standard et à la réalisation de ce magazine mis en onde par Minute Indou. Pierrot Yaméji a eu le réel plaisir de vous les présenter sous la supervision de Julien Amouini. On retrouve Paroles aux Auditeurs sur www.radiocapi.net. Au revoir.